Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 9 février 2024. Crise au Sénégal, entre manifestants et forces de l'ordre, aujourd'hui à Dakar. Dans l'est de la RDC, situation toujours très tendue sur le front des combats. L'ambassade américaine en Éthiopie s'inquiète d'une possible tuerie de civils en région Amhara. Crise à Gaza, Washington alerte sur un désastre à Rafah et assure ne pas soutenir une opération sans une planification sérieuse concernant les civils sur place. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden ne sera pas inculpé pour sa gestion de documents classifiés, selon les conclusions de l'enquête d'un procureur spécial. Et en sport, ne manque pas notre journal de la CAN dans un instant. En apothéose dimanche, la finale Nigeria-Côte d'Ivoire pour la succession au Sénégal sur le trône continental. Sport, football, nous ne sommes plus qu'à deux jours de la finale de la CAN 2023. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, va faire face au Nigeria. L'ambiance d'avant la finale monte petit à petit à Abidjan, où nous retrouvons notre envoyé spécial, Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Coup d'envoi ce dimanche 11 février à 20h temps universel, au stade Alassane Ouattara d'Ebempe, ici à Abidjan. Cette finale 100% ouest-africaine présage d'une belle rencontre entre deux équipes qui se connaissent. En effet, Ivoiriens et Nigérians s'étaient déjà rencontrés en phase de poule. Un match remporté par les Super Eagles 1-0. Le Nigeria, qui va jouer sa 8e finale de CAN, a remporté le trophée à 3 reprises. En 1980, 1994 et 2013, dans la commune de Trècheville, au quartier Apollo, où résident de nombreux Nigérians, ici à Abidjan, les fans nigérians disent être sereins, tout comme les supporters des éléphants.
La Côte d'Ivoire gagne 2-0 pour ce match à un retour. Mais là, en phase de poule, le Nigeria nous a gagné 1-0 au tir au but. Mais cette fois-ci, on va les gagner 2-0, pas de prolongation.
Nous tous, on a vu Côte d'Ivoire passer par quoi pour être là. Donc, déjà fait qu'ils sont en finale, ils ont travaillé dur. Maintenant, ils ne vont pas se lâcher. Ils vont pas, tu vois, ils vont tout donner pour pouvoir quand même ramener la coupe, tu vois, pour faire plaisir à l'épée, à tous ceux qui comptent ici, toute la nation.
Mon pays Nigeria, je sais qu'il est fort. Dans le pays, quand il était dedans, il ne voit rien là, Côte d'Ivoire, elle-même, elle est forte. Tu sais que dans la vie, quand on dit jouer ballon, c'est amusement, c'est pas palable. Donc moi, je souhaite que Nigeria va prendre la coupe, par la grâce à Dieu.
Ces deux pays-là sont comme des jumeaux. Pour nous, là, ils sont pantalons et puis chemise pour nous. Donc, pour le moment, là, notre manière de les supporter, là, c'est égal. La balance, là, Nigeria, Côte d'Ivoire. Pour nous, là, les deux sont pour nous. Donc, qui est le meilleur gagne? Pour le moment, là, moi, en tant que Nigérien, c'est vrai que je réside en Côte d'Ivoire. Le Nigeria, c'est ma deuxième nation. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'accueil aussi. Donc, là, c'est un choc. C'est un grand choc que le meilleur gagne.
La Côte d'Ivoire, qui compte deux trophées de CAN à son actif, 1992 et 2015, veut accrocher une troisième étoile à son maillot. Le défi est immense pour les éléphants qui vivent une CAN particulière, eux qui avaient subi une humiliation 4-0 contre la Guinée équatoriale lors de leur dernier match de poule et étaient presque out avant de profiter d'une victoire marocaine pour se relancer. Depuis, ils sont redoutables, surtout dans cette phase à élimination directe. Désormais, les Ivoiriens ont redoublé d'efforts et font preuve d'un mental d'acier, selon le consultant sportif ivoirien Didier Blé.
Ce qui fait la marque de fabrique de cette équipe ivoirienne, finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler Sagnac. C'est une nouvelle mentalité de gagneur. On espère que ça va continuer, mais c'est au mental qu'on essaie justement de sortir du piège des différentes équipes.
Le consultant sportif ivoirien Didier Blé qui ajoute que l'apport des supporters des éléphants contribue aussi beaucoup à leur succès.
Les supporters ont été critiqués. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus des spectateurs que des supporters. Ceux de Boaké ont fait la démonstration et ceux de Bimpe ont fait l'extrême copie de ce qui a été fait à Boaké. Je pense que c'est intéressant. Il y a des supporters de légende comme les Anglais, comme les Russes, comme les Australiens. On doit faire comme eux. Je pense que ces chants-là, il faut les apprendre. Et puis, que le 12e homme soit un vrai 12e homme, quoi. Que ce ne soit pas des gens assis là qui attendent seulement les bonnes actions pour applaudir. Des gens qui décident de rester debout et de chanter jusqu'à la fin.
Il y aura un match dans cette finale, celui entre les buteurs ivoiriens Sébastien Haller et Nigérian Victor Osimhen, tous deux solides et qui apportent beaucoup à leurs équipes, même si chacun n'a inscrit qu'un seul but jusqu'ici. Ce match, dans le match, supporters ivoiriens et nigériens l'attendent fermement.
Bon, vraiment, c'est un choc de titans à l'heure et puis Osimhen là. Vrai, on a vu. Entre Côte d'Ivoire et puis Nigeria, là, il y a eu match à aller, d'après les Ivoiriens. Donc c'est un riz couché. Donc le retour, là, vraiment, là, il y a du fil à retordre pour tout un chacun. Donc vraiment, que le meilleur gagne.
Forcément, ça sera un dieu, ça sera un choc. Nous tous, on connaît les dés en Europe. Comment les batailles, c'est pas du côté d'Allemagne et l'Italie, chacun, tu vois, dans son milieu, dans son club. Donc je sais que ils vont essayer de tout donner pour pouvoir, tu vois, après les meilleurs, va prouver.
Bien avant cette finale de dimanche entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, demain samedi, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud vont s'affronter dans la petite finale dans l'espoir d'accrocher la médaille de bronze. Yacouba Ouidraogo, Abidjan, pour VOA Afrique.
Jean-Roger Billon, retour à Washington pour vous présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. Les forces de sécurité sénégalaises ont fait usage de gaz lacrymogène contre des jeunes qui tentaient de se rassembler dans le centre de la capitale Dakar ce vendredi pour protester contre le report du scrutin présidentiel. Alexandrine Ollognon nous en dit plus.
De petits groupes ont tenté de se rapprocher du centre de la capitale Dakar en lançant des pierres. Mais ils ont été repoussés par la police anti-émeute et tous les points d'accès à la place centrale de la ville ont été fermés. À la mosquée Masdi Dounour de Dakar, seule une poignée de fidèles étaient vêtus de blanc et des couleurs nationales à l'appel d'un nouveau collectif de groupes citoyens, religieux et d'organisations professionnelles qui s'opposent au report du scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février. Dans la matinée, les enseignants ont donné le ton avec des débrayages dans les écoles. Au lycée Blaise Diagne de Dakar, des centaines d'étudiants ont quitté leurs cours à 10 heures. Des messages circulant largement sur les réseaux sociaux ont appelé les Dakarois à manifester sur la vaste place de la nation, à quelques kilomètres du centre de la capitale. Outre cet appel, le collectif Ars sous nos élections, protégeons notre élection en français, demande aux chrétiens de s'habiller en blanc à la prière du dimanche et prévoit une manifestation mardi.
La situation restait tendue aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo, où les combats se sont intensifiés ces derniers jours entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23. Des milliers d'habitants paniqués de Sake, cité considérée comme stratégique sur la route de Goma, se sont enfuis mercredi pour échapper aux bombardements et se sont ajoutés aux centaines de milliers de déplacés déjà agglutinés dans les faubourgs du chef-lieu du Nord Kivu. Dans ce contexte de crise, le ministre congolais de la Défense, Jean-Pierre Bemba, est arrivé aujourd'hui à Goma pour une visite de terrain. Les États-Unis se disent profondément inquiets à la suite d'informations sur une tuerie ciblant des civils à Merawi, en Éthiopie. Il s'agit d'une localité de l'État régional de l'Amara où les forces fédérales éthiopiennes affrontent des milices locales. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
Selon des médias locaux et étrangers qui citent des habitants, au moins 50 civils ont été tués par les forces gouvernementales le 29 janvier à Merawi, localité située à une trentaine de kilomètres de Bahir Dar, capitale régionale de l'Amara. D'après les témoins cités par ces médias, cette tuerie est survenue en représailles à des affrontements le même jour entre forces fédérales et FANO, des milices populaires d'autodéfense à Amara, la deuxième communauté ethno-linguistique d'Éthiopie. Ces informations n'ont pu être vérifiées dans l'immédiat, les autorités éthiopiennes refusant depuis le début du conflit l'an dernier l'accès à la région aux journalistes. Dans un communiqué publié ce vendredi sur X, l'ambassade des États-Unis en Éthiopie demande que les observateurs indépendants des droits humains aient un accès illimité à la zone et que soit menée une enquête impartiale permettant de traduire les auteurs en justice. Cette tuerie présumée fait suite à de nombreuses informations troublantes sur d'autres violations et violences en région Amara, Oromia et ailleurs en Éthiopie, qui mettent en cause à la fois des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, souligne l'ambassade américaine. Le Parlement éthiopien a prolongé début février pour 4 mois l'état d'urgence instauré en août 2023 en Amara pour tenter, pour l'heure sans succès, de réduire l'insurrection des FANO déclenchée par une tentative du gouvernement fédéral de désarmer des forces Amara.
Le premier groupe de presse privée du Bénin, la Gazette du Golfe, a annoncé jeudi le licenciement de ses 200 employés après le gel de ses comptes bancaires par les autorités du Bénin. La Gazette du Golfe a été le seul journal d'opposition dans le pays jusqu'en 1990. Interrogé sur la fermeture du média au cours d'une conférence de presse, jeudi, le président béninois Patrice Talon a répondu qu'il n'avait pas la main pour agir. Patrice Talon a laissé entendre qu'il n'avait pas à interférer dans le travail de l'autorité audiovisuelle.
Madagascar a voté un texte de loi cette semaine pour imposer des peines de castration chirurgicale ou chimique aux violeurs de mineurs condamnés, une mesure jugée cruelle, inhumaine et dégradante par Amnesty International. Le texte a été adopté début février par l'Assemblée nationale, puis mercredi par le Sénat et doit encore être validé par la Haute Cour constitutionnelle avant que le président André Rajoel ne le promulgue.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne bombarde aujourd'hui Rafah, ville du sud de la bande de Gaza, où s'entassent plus d'un million de personnes, faisant craindre un désastre humanitaire pour les États-Unis. Le président Joe Biden a critiqué la riposte excessive d'Israël dans le territoire palestinien. Rosine Monizero.
Après que l'armée israélienne a concentré ses opérations militaires sur les villes de Gaza dans le nord, puis Khan Younes plus au sud, le premier ministre Benjamin Netanyahu a ordonné mercredi de préparer une offensive sur Rafah, une ville située à la frontière fermée avec l'Égypte. 1,3 million de Palestiniens sont entassés dans cette ville, en grande majorité des personnes déplacées par les affrontements des derniers mois. Washington a averti jeudi d'un désastre à Rafah et assuré ne pas soutenir une opération sans une planification sérieuse concernant les civils sur place. Je pense, comme vous le savez, que la riposte dans la bande de Gaza a été excessive, a déclaré le président américain Joe Biden dans une rare critique à l'égard d'Israël. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui a conclu jeudi une tournée régionale visant à encourager les efforts pour obtenir une trêve, a exhorté Israël à protéger les civils dans ses opérations à Gaza, incluant Rafah. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est aussi dit alarmé par une telle opération qui, selon lui, aggraverait de façon exponentielle la situation humanitaire dont les conséquences régionales sont déjà incalculables.
Les brigades du Hezbollah, influent groupe armé irakien allié à Téhéran, ont violemment pris à partie aujourd'hui les États-Unis pour leur frappe menée en Irak après une attaque de drone ayant tué un haut commandant de la faction à Bagdad, classée organisation terroriste par Washington et visée par des sanctions. Le groupe a été bombardé à plusieurs reprises par les forces américaines. Ici aux États-Unis même, Joe Biden s'est fermement défendu jeudi après un rapport à l'effet dévastateur qu'il a exonéré dans une enquête sur la rétention de documents confidentiels, mais l'a décrit comme un homme âgé avec une mauvaise mémoire, dit Lidico.
Je suis bien intentionné, je suis un homme âgé et je sais ce que je fais, bon sang. Je n'ai pas de problème de mémoire, s'est défendu Joe Biden, 81 ans, lors d'une allocution télévisée. Un procureur spécial chargé d'enquêter sur sa gestion de documents confidentiels a publié un rapport de 388 pages ne recommandant pas de poursuite contre le président Biden, mais exposant sa principale vulnérabilité, son âge, et affirmant que la mémoire du chef de l'exécutif américain a empiré. Joe Biden ne se souvenait plus quand il était vice-président, ni exactement de l'année du décès de son fils aîné Beau, a rapporté le procureur spécial Robert Hur. « Comment diable ose-t-il ? » a dit Joe Biden, visiblement ému et sur un ton de défiance. Nommé en janvier 2023 par le ministre de la Justice Merrick Garland, le procureur spécial a conclu que le président a sciemment gardé et divulgué des documents classifiés après sa vice-présidence, mais il a considéré qu'une inculpation ne se justifie pas, estimant notamment qu'un jury accorderait le bénéfice du doute à un homme âgé, sympathique, bien intentionné, avec une mauvaise mémoire.
Donald Trump a remporté les caucus organisés jeudi dans l'État du Nevada et dans les îles Vierges américaines, se rapprochant un peu plus de la nomination comme candidat du Parti républicain à l'élection présidentielle de novembre prochain. Le Chili a rendu un dernier hommage à l'ex-président de droite, Sébastien Piñera, décédé mardi dans un accident d'hélicoptère, clôturant 3 jours de deuil national. Monsieur Piñera, 74 ans, l'un des hommes d'affaires les plus riche du Chili est mort noyé quand l'hélicoptère qu'il pilotait s'est abîmé dans un lac. 3 autres personnes à bord s'en sont sorties pratiquement indemnes. Vous suivez VOA Afrique dans quelques instants, la page magazine de cette session d'information.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écho du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Crise au Sénégal, les forces de sécurité ont dispersé par la force un rassemblement à Dakar. Cette mobilisation est la première contestation d'ampleur depuis le report du scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février qui a ouvert une grave crise politique au Sénégal et plongé le pays dans une période d'incertitude. Je vous propose tout de suite de retrouver à Dakar notre correspondant Wani Johnson-Sambou. Bonjour Wani.
Bonjour.
Alors, que s'est-il passé aujourd'hui à Dakar et quel est le pouls de la situation en ce moment?
Alors, la situation est très tendue à Dakar depuis le début de l'après-midi. Hein. Le collectif des candidats de l'opposition avait appelé à une manifestation pacifique. Ont été présidés à la place de la nation, qui est le lieu habituel des grands rassemblements depuis plusieurs années. Mais comme à chaque fois ces dernières années, les forces de l'ordre qui sont opposées, ils ont bloqué tous les accès menant au lieu de regroupement et s'en est suivi des affrontements avec les manifestants qui ont joué au chat et à la souris avec les policiers et les gendarmes dans les rues des quartiers adjacents. Et juste à l'heure où je vous parle, les affrontements se poursuivent et d'après les informations qui nous sont parvenues d'ailleurs, ça a chauffé également en banlieue dakaroise.
Alors qui sont ceux qui exactement battent le pavé dans les rues dakaroises?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est à l'appel du collectif des candidats de l'opposition, mais un collectif qui regroupe 13 et 19 candidats de l'opposition à la présidentielle qui, comme vous le savez, a été reporté et c'est ce qui est à l'origine de cette situation. Alors, à travers cette organisation, ces candidats comptent faire front commun pour faire reculer le président Macky Sall dans sa décision imposée, comme il le rappelle toujours, par l'Assemblée nationale de poursuivre son mandat qui devait être expiré le 2 avril prochain, jour prévu pour la passation de service avec son éventuel successeur. Mais pour l'instant, l'incertitude reste totale. Personne ne sait encore jusqu'où ira cette crise qui fait pousser les germes de nouvelles tensions dans le pays. Et au collectif, qui a ajouté également les associations de la société civile.
Wani Johnson-Sambou, apparemment le pouvoir a décidé de jouer la fermeté face à la mobilisation. Y a-t-il eu des déclarations des autorités?
Alors, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a eu aucune communication des autorités par rapport à ce qui se passe. Ni le ministre de l'Intérieur, encore moins le chef de l'État, ne se sont prononcés sur la question alors que Dakar s'embrase un tout petit peu. Et au vu de la situation, comme vous l'avez dit, les autorités semblent effectivement vouloir jouer la carte de la fermeté face à la mobilisation de l'opposition, ce qui met un peu de mou sur le feu, un feu qui risque d'être très dévastateur.
Johnson Wani Sambou, en direct de Dakar, il est notre correspondant dans la capitale sénégalaise.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, outre les dégâts humains et matériels, la guerre a un impact négatif sur l'éducation. Les élèves ne peuvent plus se rendre à l'école à cause de l'insécurité. C'est le cas dans la cité de Sake, à 27 km de la ville de Goma. Davantage avec Zanem Neti Zaidi.
À l'école primaire Macha, l'une des écoles les plus fréquentées de la cité de Sake, les portes des classes sont fermées depuis que la cité a enregistré des morts et des blessés lorsque les belligérants qui s'affrontaient dans les collines environnantes ont bombardé la zone. Selon les autorités chargées de l'éducation, il vaut mieux sauver des vies maintenant et récupérer les heures perdues plus tard. Bahati Kikala, chef de bureau à la sous-division de l'éducation.
Il fallait qu'on suspende les activités à cause des bombes qui ont été larguées ici par l'M23. Même si ce sont les examens, il faut d'abord sauver les âmes, sinon on peut récupérer les heures perdues. Nous pensons que dès qu'il y aura accalmie, on va encore revenir au niveau de l'école et nous allons demander aux enseignants de multiplier les efforts pour qu'ils récupèrent la matière perdue.
Bouira Bakoulou, directeur de l'école primaire Macha, souligne l'impact de l'intensification des combats sur le nombre d'élèves de son école.
On avait une affaire de 1283 élèves, mais juste après la guerre, il y a eu des perditions de plus de 100 élèves. Et pourtant, c'est la gratuité. Donc, ça a été causé par la guerre il y a une partie de nos élèves qui sont restés dans les cadres déplacés, compte tenu aussi des coûts de vie. Et d'autres, les maisons étaient détruites, elles ne pouvaient plus retourner dans le milieu.
Les parents s'inquiètent du sort de leurs enfants. Ils sont désespérés par la perspective d'une guerre interminable. Ils craignent les graves conséquences de l'oisiveté des enfants.
Bahini Mongo Bienda est l'un d'entre eux.
Nous avons peur que nos enfants ne puissent pas terminer l'année à cause de cette guerre qui ne semble pas devoir se terminer dans quelques jours. Les enfants errent dans les rues et nous craignons qu'ils y rencontrent de graves problèmes. Ils pourraient mourir ou être à l'origine des conflits lorsqu'ils se battent, et tout cela, ce sont les effets de la guerre.
Depuis samedi matin, d'autres populations se déplacent, quittant leur village pour se réfugier à Sake. Aux dernières nouvelles, le rebelle du M23 avance vers le site Kivu, cherchant à couper complètement la route entre la ville de Goma et cette province voisine. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
La Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire donnera son verdict ce week-end. Les supporters des différentes équipes ont vécu d'intenses moments d'émotion, y compris les personnes déplacées au Burkina Faso. L'un de nos correspondants à Ouagadougou, Gildas Da, est allé à la rencontre de ses déplacés internes. Fan de football, reportage.
Amdalaï, quartier en plein cœur de Ouagadougou. Il est un peu plus de 16 heures. Dans ce local vivent des centaines de personnes déplacées internes contraintes de fuir leur village à cause du terrorisme. Parmi ces infortunés, certains ont en dépit de leur malheur les yeux fixés sur les matchs de la CAN. Enfin, ceux qu'ils peuvent suivre pour le match du jour. Djibril Tall est derrière les aigles du Mali qui croisent la Côte d'Ivoire.
Pour l'instant, c'est le Mali que je supporte. Nous suivons des matchs afin que nous puissions nous réjouir comme les autres. Pendant le match, il y a des problèmes en lien avec l'insécurité que vous oubliez. Une fois à la maison, les problèmes reviennent parce qu'il n'y a rien à manger. Nous suivons les matchs et ça permet d'oublier tous ces problèmes, juste le temps du match.
Les matchs de foot de la CAN viennent comme pour renforcer un tant soit peu la résilience de ces personnes qui ont laissé une bonne partie de leur vie dans leur village d'origine. Gibo, Karma, Goursi. Ici, on vient des quatre coins du Burkina, avec femmes et enfants. La vie n'est pas rose, mais pour certains, le foot demeure un véritable exutoire. Des dizaines de minutes plus tard, à quelques kilomètres du centre pour PDI, le match Mali-Côte d'Ivoire bat son plein. Nous sommes en deuxième mi-temps déjà. Le pays de Soundiata Keïta mène au score. Devant cet écran télé mis à disposition par un boutiquier, de nombreux téléspectateurs sont présents. Au milieu d'eux, de nombreux déplacés internes, dont le jeune Amadou. Les matchs lui permettent d'oublier quelque peu qu'il est loin de son village.
Depuis le début de la CAN, je regarde les différents matchs. Cela me permet de connaître les compositions des équipes des différents pays. Et grâce à cette compétition, je trouve une certaine joie et la paix du cœur.
Devant le même écran, Abdraman, un autre adolescent déplacé interne, reste confiant quant aux chances de l'équipe qu'il supporte. La Côte d'Ivoire qui va finalement remporter le match.
Je suis les matchs de football et je suis très content parce que la Côte d'Ivoire va remporter la coupe. Et si elle la remporte, nous serons heureux. Que Dieu nous montre ce jour. Je me réjouis vraiment en suivant les matchs. Aussi, je souhaite que la paix puisse revenir au Burkina Faso.
La paix au pays, ce leitmotiv des déplacés internes demeure malgré les joies que procure le sport roi. Au-delà de leurs difficultés quotidiennes, les matchs de la CAN apportent le peu de réjouissance possible pour ces personnes contraintes de partir de chez elles, du moins pour les fans de football. Depuis le début de la CAN, elles sont nombreuses à fréquenter des espaces comme celui-ci pour suivre les différents affrontements entre équipes, avec de gros moments de joie que constate Seydou Drabo, riverain.
Les déplacés internes viennent suivre les matchs de la CAN ici et je les vois tout heureux.
lorsqu'ils viennent ici se mêler aux autres, ça leur permet aussi d'oublier leurs problèmes.
Oublier ses soucis et le drame vécu le temps d'un match de football, c'est le petit instant bonheur que vivent certains déplacés internes, des personnes fans de foot depuis leur localité d'origine d'où elles ont été chassées par les groupes armés terroristes. Au-delà de ce drame, le foot reste pour ces amoureux du ballon rond un moment de résilience et de plaisir, le temps d'une compétition comme les Lacan. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Le Super Bowl, la finale du championnat de football américain qui ressemble à du rugby, se joue ce dimanche entre les Kansas City Chiefs et San Francisco à Las Vegas. Au-delà de l'aspect sportif, c'est un grand événement commercial qui draine un grand monde dans la ville d'accueil. Pour en parler, Georges Léonard Sagnon a joint le Congolais Yves-Louis Nkuka, un habitant de la région de Washington, D.C.
C'est un grand événement, évidemment. Je pense l'événement sportif le plus populaire aux États-Unis. Pratiquement tout le monde en possibilité de le suivre cet événement. Donc les 49ers, les 49, si tu veux, en français, c'est l'équipe de San Francisco qui va rencontrer les Chiefs de Kansas City. C'est très intéressant. Je pense que ce sera un très bon match. Et comme je disais, c'est un événement sportif très familial. Généralement, le match commence généralement à 20h, heure de l'Est. Mais la fête, pratiquement, c'est toute la journée. Hein. C'est un événement aussi familial, un peu comme Thanksgiving. Donc, les gens sont autour de la télé, en famille. On suit pratiquement toute la journée des commentaires, des voilà.
On m'a dit d'ailleurs que vous êtes un grand fan du Super Bowl. Alors, comment vous préparez cette fête en tant qu'Africain de la diaspora? Et qu'est-ce que cela représente pour vous personnellement et pour les autres Africains?
En tant qu'Africain de la diaspora, évidemment, comme on dit, nous sommes dans un pays, nous avons immigré dans ce pays et nous avons une culture et aussi des événements d'origine. Nous, on a grandi dans le football européen, le football anglais. Nous sommes dans un pays où le football américain, le basket sont très populaires, on suit et voilà. Donc, au début, c'était pas facile, il faut comprendre les règles. Mm-hmm. Donc, c'est surtout... Quand on ne comprend pas les règles, qu'on est un peu perdu. Mais quand on comprend les règles, je dois avouer, peut-être mes chers Africains, s'ils m'entendent, ils vont crier sur moi. Je dois avouer que je préfère le football américain que le football anglais. Ou le football, je le trouve un peu plus juste dans les règles. Les tactiques, il y a beaucoup de tactiques, alors que le football européen, c'est courir avec le ballon, donner des passes, machin. Généralement, les sports américains, il n'y a pas de match nul. S'il y a un nul, on continue jusqu'à ce qu'on ait un gagnant.
Tout à fait. Alors, alors au-delà de l'aspect sportif festif, les tickets coûtent très cher.
Oui, les tickets coûtent très cher. Mais je pense, je le dis avec réserve, mais je pense qu'autant le football européen, les grands matchs, les grands événements, les tickets coûtent toujours très très cher.
Yves-Louis Nkuka, un connaisseur du football américain, joint dans la région de Washington.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X, Instagram, pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.